France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Charlotte Piret.
C'était votre coin à vous, ce petit bout de plage où vous étiez le seul. Allez, quelques dizaines de connaisseurs à peine à installer votre serviette chaque été. Ce chemin de randonnée et la vue panoramique sur les montagnes alentour qui n'était que pour vos yeux. Cette ruelle de Montmartre, souvent déserte, et son troquet typique où vous croisiez les autres habitants du quartier pour un café au comptoir. Bref, c'était votre petit espace de paradis au point de vous en sentir presque propriétaire. Jusqu'à ce qu'un billet de blog, un post Instagram, une nouvelle escale d'un croisiériste les fasse accourir en masse. Oui, eux là, avec leurs appareils photos, leurs sacs à dos et leurs mauvaises manières. Ces gens-là, comme dirait Brel, qui prennent toute la place, parlent trop fort, ne consomment jamais assez, ne se déplacent qu'en troupeau et laissent leurs déchets derrière eux. Les touristes, ceux que par essence on critique pour ne pas dire on méprise, en oubliant que régulièrement on en devient un soi-même. La France n'en est d'ailleurs pas un paradoxe près. Elle, la première destination touristique au monde, 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés, 2 millions d'emplois. Dès lors, le problème ne sera peut-être pas tant le nombre de touristes que leur concentration, quand on sait que 80% de l'activité touristique se concentre sur 20% du territoire, avec autre victime non négligeable, l'environnement, l'érosion accélérée des falaises d'Étretat, les éboulements de terrain des calanques de Marseille, la pollution accélérée des littoraux. Alors ailleurs, certains ont sorti les grands moyens. Venise et sa taxe d'entrée de 5 euros l'été dans cette ville où le ratio touristes par habitant est le plus élevé au monde, 1 pour 500. Barcelone et sa guerre déclarée à Airbnb, capitale catalane, où le mois dernier encore, des résidents excédés sont venus dire leur colère en arrosant les touristes au pistolet à eau. Amsterdam, peut-être la plus radicale à ce jour, sa campagne Stay Away pour décourager les visiteurs, son interdiction de nouvelles boutiques de souvenirs ou de chambres d'hôtels. Mais si la guerre au surtourisme relevait au fond du mépris de classe, la dénonciation facile de ceux qui n'ont pas le choix de leur date de vacances, pas les moyens d'accéder à des lieux plus éloignés ou privilégiés, bref, comment trouver le bon équilibre et repenser quand même un peu nos habitudes collectives? Nous avons jusqu'à 20h pour explorer tout cela. N'hésitez pas à nous appeler 01 45 24 7000 par téléphone ou WhatsApp. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et on démarre en accueillant Michel qui nous appelle de Castres-Mazamet. C'est bien ça, Michel? Bonsoir.
Oui, tout à fait. Dans ce coin-là, voilà. Oui, oui.
Parfait. On vous écoute, vous êtes à l'antenne.
Oui, oui, je m'interrogeais voilà, sur le fait qu'il y a eu une explosion du tourisme. Moi, j'ai une soixantaine d'années. Quand j'étais enfant, voilà, je suis venu dans le sud du pays. On mettait 3 jours pour y aller, 2-3 jours, et pas encore d'autoroute et choses comme ça. Je me rappelle un petit peu plus grand. J'avais vu la découverte du Machu Picchu. J'avais trouvé ça génial, je voulais y aller. Et puis les pyramides aussi, enfin, je veux dire plein de choses. J'ai vu plein de choses pendant ma vie, mais tous ces endroits-là me font plus du tout rêver, quoi. C'est-à-dire que c'est complètement envahi, c'est complètement... voilà. Alors je me dis peut-être que pour sauver un petit peu tout ça, il y a une crise économique qui est mondiale. Je pense pas que ça va s'arranger dans les dizaines d'années tout de suite, à moins de trouver un truc génial par rapport à l'énergie ou chose comme ça, mais je pense pas qu'on va s'en sortir. C'est pas une question franco-française, hein, c'est une question plus générale. Et donc je me dis que finalement cette décroissance qui est là, qu'on la veuille ou pas, elle arrive petit à petit, elle s'installe, et je me demandais si petit à petit, finalement, on n'aura plus les moyens de le faire, quoi, simplement, où le prix d'énergie va exploser. Prendre l'avion, vous imaginez, vous demandez à des gens qui ont 40, 50 ans, quand ils étaient jeunes, moi je prenais pas l'avion, hein. J'ai commencé à prendre l'avion il y a 20, 30 ans pour me déplacer. Avant, ça c'était pas pratique, c'était pas accessible, on n'avait pas besoin ou pas envie d'aller ou pas les moyens simplement d'aller à droite à gauche. Aujourd'hui, tout est devenu accessible. Donc cette société des loisirs, je pense qu'elle est au bout. Et ça me réjouit pas particulièrement de dire ça. Hein. Et puis la crise économique qui ne fait que commencer à mon avis. Je vais peut-être paraître un peu pessimiste, mais je ne pense pas qu'elle va s'améliorer. C'est pas une question de politique, hein, c'est une question, voilà. Je suis pas particulièrement écologiste, mais on serait au bout
d'un processus.
Oui, je pense que voilà, la décroissance, elle est là, qu'on le veuille ou non. Donc le tourisme, voilà. Après, advienne qui pourra.
Merci beaucoup Michel pour ce premier témoignage. Je vous propose qu'on accueille ensemble nos invités pour cette émission. Nous sommes en studio avec Linda Lenné, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef de l'écotouristique, vous êtes également co-autrice de Quand le tourisme s'éveillera, c'est paru aux éditions de l'Aube cette année, mais vous avez également écrit l'année dernière, toujours aux éditions de l'Aube, Voyage au pays du surtourisme. Nous sommes en ligne avec Rémi Knafou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite des universités en géographie à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous avez écrit « Réinventer vraiment le tourisme, en finir avec les hypocrisies du tourisme durable ». Et nous sommes également en ligne avec Jean-Christophe Guérin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes PDG de plusieurs tours opérateurs et puis vous êtes le président de l'association Agir pour un tourisme responsable. Linda Lenné, je vous ai vu hocher la tête longuement pendant le témoignage de notre premier auditeur. On est au bout d'un processus et finalement en matière touristique, il faut forcément qu'on repense les choses désormais.
Alors, il faut repenser les choses, c'est certain. Le témoignage est intéressant parce que Michel l'explique bien, il a beaucoup voyagé. Mmh. Il a eu cette chance. Il faut rappeler quand même qu'en France, 60% des personnes partent en vacances, mais 40% ne partent pas.
Tout à fait.
Et la moitié d'entre eux, la moitié des non-partants, ne partent pas pour des raisons financières. Donc, je suis heureuse d'entendre que Michel a apprécié de parcourir le monde, de découvrir l'Égypte, le Machu Picchu. Mais beaucoup de personnes n'ont pas eu cette chance. Et puis, même si effectivement, il faut repenser le tourisme et la façon de voyager. Les chiffres nous montrent que nous sommes toujours dans un cycle de croissance. Si on reprend les grands chiffres, juste après la Seconde Guerre mondiale, on avait finalement seulement 25 millions de personnes qui franchissaient les frontières à travers la planète. En 2024, ils étaient 1,4 milliard, et d'après une récente étude, elles seront 1 milliard de plus en 2040. Mmh. Tout simplement parce que effectivement il y a une démocratisation déjà des transports, on l'a souligné un peu plus tôt, notamment avec le développement
des compagnies low-cost principalement.
Et puis il y a aussi une croissance des classes moyennes, notamment en Asie, qui elles n'ont pas encore eu la chance de voyager pour la plupart, et donc sont en appétit de ce monde merveilleux. Et ce serait donc un peu égoïste de notre part de dire « nous avons bien consommé le monde, nous avons brûlé la planète et maintenant vous ne pourrez pas en faire autant parce que justement la planète brûle ». Donc oui, bien sûr, il faut repenser notre façon de voyager et il faut être aussi solidaire et puis finalement voyager en pleine conscience, conscient de son impact, qu'il soit positif ou négatif, parce que le tourisme représente aussi un impact positif. C'est 10% du PIB dans le monde, c'est 10% également des emplois dans le monde.
Jean-Christophe Guérin, notre auditeur Michel nous disait effectivement on est dans une crise économique et donc le tourisme va forcément baisser. En réalité, on l'a vu au moment de la crise Covid notamment, effectivement une chute radicale puisque tout était fermé, et puis c'est quand même reparti de plus belle.
Oui, c'est vrai. Alors, on a vécu deux années de disette extrêmement forcée qui a donné beaucoup d'appétit, d'appétence aux gens pour voyager. Mais après, ce qui est intéressant quand même de regarder entre Michel, l'auditeur, et ce que dit Linda, c'est qu'à la fois, on a eu une brève histoire du développement touristique depuis les années 60 qui montre un cycle énorme qui arrive aujourd'hui et Linda qui nous donne encore des perspectives très importantes. Néanmoins, effectivement, avec un certain nombre de contraintes, on a vécu la crise Covid qui est une crise sanitaire qui a impacté énormément le tourisme mondial. On sait qu'on a un impact avec le changement climatique qui va à la fois nous donner de fortes contraintes sur les destinations, qui va aussi avoir probablement des impacts économiques, des impacts sur nos emplois destinations. Moi, je dirais surtout que cette introduction nous montre que le sujet n'est peut-être pas le surtourisme, mais le sujet est de réinventer le tourisme. C'est-à-dire effectivement de ne pas opposer ceux qui ont pu en profiter dans cette ère incroyable de croissance exponentielle du tourisme, tant en nombre que dans les espaces découverts, mais aussi effectivement de réinventer quelle forme on souhaite, comment on va appréhender l'espace. Parce que Charlotte, vous l'avez dit dans l'introduction, ce tourisme ou ce surtourisme, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas se concentre sur une petite partie de nos territoires, alors que 80% du reste du territoire a certainement des choses à apporter en termes d'expérience de voyage, d'expérience touristique. Donc il y a la place pour inventer le tourisme et laisser de la place effectivement dans une dimension d'inclusivité sociale, que ce soit pour les Français qui ne voyagent pas, mais aussi d'inclusivité pour effectivement les pays émergents qui aujourd'hui sont les pays qui poussent le plus fort cette croissance touristique.
Rémi Knafou, puisqu'on en est justement aux définitions finalement, et notamment à cette question du surtourisme, effectivement, il y a surtourisme dès lors qu'il y a un déséquilibre entre les bienfaits apportés par le tourisme, qu'ils soient économiques ou autres, et une concentration telle qu'il n'y a plus de capacité d'absorption du site, du nombre de touristes quotidiens, pardon.
Alors effectivement, ça peut être effectivement une définition, ce déséquilibre. Mais avant de revenir là-dessus, je voudrais ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit pour répondre à Michel. C'est que Michel disait qu'il avait 60 ans, si je me souviens bien. C'est-à-dire en gros, il y avait 3 milliards d'habitants au moment où il est né. Et maintenant, il y en a un peu plus de 8. Donc il y a là une donnée démographique qui est fondamentale avec une augmentation de l'accès aux vacances et aux voyages qui monte en particulier dans les pays en développement. Et donc, la décroissance que souhaite Michel, même si elle peut être souhaitable sur certains plans, c'est pas pour demain, c'est tout à fait évident compte tenu de la démographie. Alors, pour en venir à la définition du surtourisme, dans la littérature, on trouve trois critères pour parler de situations où on peut penser que le nombre des visiteurs est excessif. C'est lorsque le nombre excessif de visiteurs nuit à la qualité même, à la conservation du lieu, que ce soit un lieu de nature, un parc national ou un lieu de culture, par exemple les grottes de Lascaux qu'on a dû fermer, tout simplement parce que l'haleine même des visiteurs remettait en cause la conservation même. Bon. Deuxième élément d'explication, deuxième critère qui est tout simplement quelque chose qui de plus en plus important aujourd'hui, c'est la notion d'acceptabilité du tourisme par la société qui accueille. Et c'est tout à fait sensible, en particulier dans les villes, dans les métropoles touristiques, parce que là, il y a une mise en concurrence directe du marché locatif à l'année pour la population générale qui vit là, et avec les touristes qui, par définition, ont en général un pouvoir d'achat supplémentaire. Donc dès lors qu'il y a compétition, elle est en défaveur de la population permanente, et c'est ainsi qu'il y a un mouvement d'éviction progressive des catégories les moins fortunés de la population dans les centres-villes.
Oui, j'évoquais par exemple le Barcelone, pardon, avant votre troisième point, Barcelone avec ses résidents totalement excédés et ses manifestations depuis plusieurs années déjà.
Depuis 2013, il y a dans les rues de Barcelone périodiquement plusieurs milliers d'habitants qui protestent, non pas contre le tourisme en général, ils ont cette clairvoyance, mais contre certains effets du tourisme, en particulier cet effet du fonctionnement du marché immobilier qui conduit à l'éviction des populations les moins fortunées et qui refusent de quitter ainsi le centre-ville, d'où ces manifestations. Il y a aussi, ce qui alimente aussi leurs manifestations, ce sont des conduites, disons, irrespectueuses de la part d'un certain nombre de touristes, effectivement. Bon, ça n'est pas vrai qu'à Barcelone, mais dans beaucoup de villes, sous l'emprise d'alcool, de la drogue, etc., il y a des comportements excessifs de la part de gens qui oublient que ces lieux sont des lieux habités, pas par des gens qui veulent dormir, vivre normalement, etc. Et le troisième critère, qui pour moi est le plus subjectif et celui auquel je crois de moins en moins, qui est que le nombre excessif de visiteurs nuit à la qualité même de l'expérience touristique. Alors ça peut être vrai, ça peut expliquer que Michel ne veuille plus aller aux pyramides ou bien au Machu Picchu
oui.
mais c'est pas grave s'il n'y va plus, puisque de toute façon il y a un réservoir inépuisable de personnes qui vont le remplacer, qui ne connaissent pas encore les pyramides, qui ne connaissent pas encore le Machu Picchu et qui seront absolument ravis d'en faire la découverte, quelles que soient les conditions.
Alors nous avons, je pense d'ailleurs à ce sujet, nous avons Claude qui nous attend au standard. Bonsoir Claude.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien écoutez, pour reprendre ce que dit ce monsieur là, moi dans ma ville de Natal, disons que j'ai armé dans les Vosges, aujourd'hui, enfin ça fait quelques années que ça dure, la pression touristique fait que sur l'immobilier, sur les terrains à bâtir, les indigènes du lieu, ils ont du mal à trouver, à se loger. On a même la mairie a dû prendre des dispositions pour réduire les zones constructibles, et c'est ça au détriment de certains propriétaires qui avaient des terrains et qui disaient tiens, je vais donner ça à mes enfants pour qu'ils puissent bâtir. Et là, eux, ils sont frustrés parce que du coup, leur terrain n'est plus constructible. Là, c'est un effet du surtourisme, comme on dit.
Tout à fait. Merci beaucoup, Claude, pour ce témoignage. Linda Lenné, effectivement, une des conséquences, c'est finalement d'exclure les populations résidentes parce que le prix du mètre carré devient trop élevé du fait du surtourisme.
Oui, c'est effectivement l'une des conséquences. Rémi Knafou le disait un peu plus tôt. Il peut y avoir finalement un impact négatif sur la population locale, avec d'abord des prix de l'immobilier qui flambent, avec des commerces aussi qui changent, des commerces qui vont plus se tourner vers les souvenirs, au détriment par exemple de l'alimentation.
Je lisais par exemple en préparant cette émission qu'Amsterdam avait interdit désormais l'ouverture de nouvelles boutiques de souvenirs. Il y a également le problème problèmes de restaurateurs, et bars, etc. Annecy, je crois que c'est 700 restaurants et bars au kilomètre carré. Ça devient complètement fou, finalement.
Oui, tout à fait. Et Amsterdam a aussi décidé de réguler à la fois le nombre d'hôtels et celui des locations saisonnières. Donc, effectivement, il faut veiller au bien vivre ensemble. Le tourisme, maintenant, est au cœur de nos sociétés. Beaucoup de citoyens estiment que c'est vital de partir en vacances ou en loisirs. Et donc, face à cet appétit, les destinations qui reçoivent doivent aussi faire en sorte que les habitants ne sont pas étrangers dans leur propre ville. Et ça passe par de la régulation. En fait, il faut des mesures coercitives pour que finalement les habitants, qui d'ailleurs parfois travaillent dans le tourisme, puissent se loger dans des conditions décentes. Vous parliez un peu plus tôt, Charlotte, de Venise. La ville de Venise est magnifique avec ses palais, ses canaux. Voilà, je pense que tout le monde, une fois dans sa vie, rêve de voir Venise. Et malgré tout, sur place, la situation est quand même compliquée pour la population locale.
Même avec les jauges et les mesures qui ont été prises, parce que Venise a quand même pris des mesures en termes de limitation des bateaux de croisière qui n'ont plus le droit de rentrer jusque dans le centre historique depuis 2019, ce péage d'entrée auquel je faisais allusion en introduction de 5 euros. Malgré tout, pour vous, la situation est toujours critique dans une ville comme celle-là ?
La situation est toujours critique et il y a, on peut dire, un double discours. La population a baissé de 70%. Depuis les années 50. Donc ça veut dire que petit à petit, même si le maire s'en défend, Venise devient une ville-musée qui perd finalement son âme, qui perd ses habitants. Or, les habitants font partie également de la ville et de l'expérience touristique. On a envie de rencontrer des locaux. Et oui, la ville a mis en place une taxe de 5 euros pour les gens qui viennent à la journée, voire de 10 euros quand ils réservent au dernier moment, les jours de forte affluence. Et de l'aveu même de la mairie, il n'y a pas eu d'impact fort sur la fréquentation. Et surtout, en parallèle, il faut bien avoir à l'esprit que l'aéroport de Venise a présenté un plan d'investissement très important, de 2 milliards d'euros en 2023, pour finalement doubler la capacité d'accueil d'ici environ avant 2040. On parle donc d'une capacité de plus de 20 millions de passagers par an, alors qu'ils étaient seulement 4 millions en 2000. Donc on voit que la destination, malgré tout, est finalement dopée au tourisme et n'arrive pas à s'en défaire et continue à vouloir attirer des voyageurs, de préférence des voyageurs qui dépensent davantage, qui vont rester plus longtemps, et finalement à peut-être une politique un peu élitiste pour dissuader justement les gens qui viennent à la journée. Donc le problème de Venise, c'est que c'est une ville avec une monoculture et pour l'instant, elle n'a pas réussi finalement à se dépicouser de ce secteur.
Alors, puisqu'on parle de destination dopée au tourisme, je vous propose qu'on accueille Alice. Bonsoir Alice.
Oui, bonsoir.
Si j'ai bien compris, je crois que vous habitez aujourd'hui Fontainebleau, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Non, ça fait que la troisième année que je me suis résolue à quitter Montmartre, où j'habitais depuis plus de 50 ans. J'avais 14 ans quand j'y suis arrivée et je suis maintenant près de 80 ans. Et j'ai dû, la mort dans l'âme, me résoudre à quitter ce quartier dont j'ai suivi l'évolution et surtout la dégradation des conditions de vie pour les résidents, pour les Montmartrois, pour les indigènes, j'ai envie de dire, puisqu'on est un espèce de parc de Disneyland. J'ai pourtant milité, moi, pour la politique de Paris Respire, la promotion du vélo, de la circulation douce, mais le quartier de Montmartre en particulier est devenu extrêmement attractif et c'est brutalement dégradé avec une affluence de touristes. Je vous donne un exemple très bête. Avec la végétalisation qu'on peut faire des trottoirs ou des façades, c'est googlisé. Et dès lors, c'est considéré comme un itinéraire touristique. Donc il n'y a plus dans Montmartre un seul espace privé, un seul espace où les Montmartrois peuvent encore respirer, parce que toutes les rues sont envahies par un défilé processionnaire de portables qui photographient à tour de bras. Et puis surtout, les prix ont terriblement augmenté, celui de l'immobilier, les commerçants, c'est devenu des commerces ou de luxe ou strictement non utilitaires. Mmh. Ça n'est pas faute d'avoir alerté les pouvoirs publics, parce que j'ai fait partie des conseils de quartier avec les associations locales de défense de Montmartre. Depuis des années, nous dénonçons la politique de la ville qui encourage le tourisme, parce que Paris doit rester la première ville touristique au monde. Et il y a 3 sites qui sont visités systématiquement et de plus en plus massivement, la Tour Eiffel, Notre-Dame et Montmartre. Et Montmartre est une victime vraiment directe d'une politique de la ville qui ne tient aucun compte de le confort de ses habitants initiaux, je veux dire, vraiment initiaux. Donc j'ai été renversée 2 fois par des vélos sur les trottoirs. Montmartre est un site fragile parce que c'est un site de carrière, le souterrain. Les souterrains sont très fragiles, hein, c'est du gypse. Que le Tour de France gravite sur Montmartre avec... moi ça me terrifie parce que est-ce qu'on a pris en compte la structure même du quartier? Les immeubles bougent, il y a des nappes souterraines, des rivières souterraines qui surgissent, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment.
Avec un risque à terme, oui.
Absolument, mais pour l'immobilier, pour le bâti, tout simplement pour
les résidents,
pour la tranquillité des gens.
Merci beaucoup, Alice.
On ne peut plus vivre à Montmartre, c'est plus possible.
Merci beaucoup, Alice, on a bien compris. Merci beaucoup pour votre témoignage, Rémi Knafou. On parlait effectivement de cette muséification de certains quartiers, en l'occurrence pour Montmartre, presque Disneylandisation, certains disent. Effectivement, c'est un des risques s'il n'y a pas une politique publique pour encadrer ça. C'est ce que réclamait Alice.
C'est effectivement un vrai risque et le témoignage d'Alice est marqué du coin à la fois du bon sens et de l'expérience, parce qu'effectivement c'est ce qui se passe à Montmartre. Moi-même j'ai eu l'occasion d'y retourner après 10 ans, 15 ans où je n'y étais plus allé, et j'ai observé sur place qu'il n'y avait plus, parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, les touristes étaient encore très concentrés sur la place du Tertre, l'arrivée du funiculaire et dans une ou deux rues. Aujourd'hui la circulation touristique est générale, et effectivement la politique de la ville qui une politique qui se veut par ailleurs d'embellissement, concourt à accroître cette fréquentation.
Avec la vidéo Instagram un petit peu, ou le lieu instagrammable, c'est comme ça aussi qu'on pense le tourisme désormais.
Oui, mais effectivement, tout ça est plein de bonnes intentions, mais sans en voir les conséquences. C'est-à-dire qu'on met le doigt dans un processus de touristification, c'est-à-dire d'investissement du lieu par le tourisme, sans en percevoir toutes les conséquences. Par exemple, quand on empêche les voitures de stationner, qu'on les remplace par des bacs à fleurs, bon, c'est très plaisant pour les touristes et ça accroît la venue effectivement des touristes, et en même temps ça complique beaucoup la vie des personnes qui sont là, parce que les transports publics à Montmartre c'est pas terrible, le métro, les bouches de métro sont plus basses, ceux qui vivent en haut de la butte ont des problèmes, les personnes âgées, si on cumule à la fois la pente, l'encombrement par les touristes, comme cela a été rappelé à juste titre, la disparition des commerces de proximité au profit finalement des souvenirs, enfin tout ce qui rappelle Emily and Paris ou bien Amélie Poulain. Bon, on est effectivement dans un quartier qui tend à perdre ses habitants, mais avec des habitants qui sont plus patients que les Barcelonais.
France Inter. Le téléphone sonne.
Vous êtes bien sur France Inter, au téléphone sonne. On parle surtourisme avec Linda Lenné, rédactrice en chef de l'éco-touristique, avec Rémi Knafou, professeur émérite en géographie à l'université Panthéon-Sorbonne, et avec Jean-Christophe Guérin, qui est président de l'asso Agir pour un tourisme responsable. Et nous accueillons Alexandre. Bonsoir Alexandre.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Eh bien, je vous remercie. En fait, je ne pensais pas passer à l'antenne, mais je voulais juste soulever un sujet. C'est vrai que vous parlez du fait que les politiques publiques tentent parfois de trouver des solutions, mais n'y parviennent pas forcément, ou parfois se trompent de combat. Et c'est pas seulement le surtourisme n'est pas forcément uniquement le sujet des communautés, des mairies, mais parfois aussi des départements, ou de manière plus large. Je pense à la ville d'Étretat, qui est un haut lieu touristique mondialement connu, qui est un petit village, mais qui connaît depuis de nombreuses années, effectivement, un surtourisme qui, évidemment, dégrade le site, rend la gestion des ordures ménagères compliquée, etc. Et aujourd'hui, il y a une réflexion qui est portée, justement, par des propriétaires privés, de mettre en place un parking très important, favorisant, justement, le stationnement de touristes à la place des parkings, sauvages. Et donc, ce qui a un véritable intérêt, c'est-à-dire que ça permet effectivement d'éviter que les gens se gardent n'importe où, sauf que ça ne va faire qu'encourager justement davantage de visiteurs à venir. Et là, ça pose un réel problème. C'est-à-dire que ce n'est pas bon pour le site, ce n'est pas bon pour la mairie qui ne va pas en tirer grand-chose. Elle n'a pas besoin de ça pour avoir une notoriété. Ça n'a pas d'impact positif pour les villageois, pour les gens qui habitent ce village. Donc je m'interroge, je voulais juste soulever une question, pourquoi partir sur ce type de solution, sachant qu'en fait elle est contre-productive, et comment l'empêcher, voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage Alexandre. J'ajoute également Nono qui nous écrit via WhatsApp, qui dit: habitant de l'île de Bréa depuis fort longtemps, les soi-disant quotas ne sont que de la poudre aux yeux. J'invite quiconque à venir voir dans quel état sont les chemins de l'île. Jean-Christophe Guérin, effectivement les solutions prises au niveau public, quel que soit l'échelon, finalement ne sont pas toujours très efficaces, on pourrait le résumer ainsi.
Oui, je pense qu'effectivement, dans les échanges, là, on parle régulation, ça paraît une évidence, mais ça n'est qu'un des volets. Nous, en tant que professionnels, on a forcément notre part à jouer, on doit aussi agir dans ce cadre-là. Et en écoutant Linda et Rémi, je pense que moi, le premier complément qui me vient à l'esprit, c'est informer, sensibiliser. Même par rapport aux auditeurs qui parlent de leurs expériences sur leur territoire de cœur, qui sont... pour certains dévastés qu'ils ont même quittés. C'est pas très nouveau finalement. En 97, a été initiée la charte éthique du voyageur. Elle était déjà sur cette problématique-là, qui était de se dire comment on sensibilise les gens à un comportement adéquat du moment qu'ils sont en train de visiter, qu'ils sont en train de découvrir une destination. Et il s'agit bien évidemment pas simplement que de veiller à ses déchets, mais d'un comportement, y compris vis-à-vis des autres qui nous reçoivent sur leur territoire, que ça soit un quartier dans une grande ville européenne, que ça soit sur un petit village isolé. C'est des problématiques qui sont pas nouvelles, malheureusement, mais où le sujet de sensibiliser est très important, informer, parce qu'il faut effectivement changer les comportements, et on le voit bien notamment avec aujourd'hui des pays émergents qui arrivent avec une toute autre approche, une toute autre culture du voyage, qui parfois peut nous bousculer. Et non pas du tout ce rapport à l'image, à faire effectivement beaucoup de selfies, beaucoup d'images, quoique de toute façon les Français le font aussi en vacances. Mais voilà, sensibiliser c'est important.
Je vous interromps, mais parfois un touriste tout seul peut être très respectueux du lieu, et parce qu'ils sont 1000, ça devient un danger pour le lieu. Il y a aussi l'effet de masse simplement qui peut, notamment en matière d'environnement, poser problème.
On est d'accord, je pense qu'il y a sensibiliser, et ensuite il y a comment on imagine et on réimagine le tourisme de demain, c'est quoi la taille des groupes, vers quoi on doit tendre. Moi, le deuxième sujet de sensibiliser, c'est souvent ce qu'on discute entre tour opérateurs au sein de l'association Agir pour un tourisme responsable, c'est sur ces points chauds, ces points de surtourisme, comment on arrive à accompagner nos clients. C'est difficile de dire on vous y emmène pas, mais peut-être qu'on peut pousser les clients à une juste information, un carte sur table de la situation en haute saison sur telle ville, telle destination, tel parc national. de au moins les sensibiliser pour dire peut-être que c'est pas indispensable d'y aller à ces dates-là, mais laisser le libre arbitre aux voyageurs, parce que finalement, comme le disait Rémi, des gens qui n'ont pas connu tel site, beaucoup moins fréquenté, comme c'était peut-être le cas il y a 20 ou 30 ans, ont encore de l'appétit pour le découvrir dans les conditions actuelles. Mais les informer, c'est important, proposer des alternatives, et peut-être, mais ça c'est un vaste sujet qui est complexe, c'est comment on réinvente nos imaginaires, parce qu'encore une fois, une immense majorité de nos territoires ne sont pas utilisés, ou en tout cas ne sont pas l'objet de pratiques touristiques, alors qu'il y a forcément beaucoup de choses à découvrir, et puis surtout une manière de réinventer, de se réapproprier ce qu'on fait de notre temps de vacances, qui est un temps sacré. Est-ce que nos imaginaires, qui sont quand même ancrés dans quelque chose qui date d'une ou deux générations maintenant, les pyramides font rêver plusieurs générations depuis les premiers explorateurs, depuis le déchiffrage des hiéroglyphes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est entré sur un plan d'éducation, mais est-ce que l'humanité entière a besoin d'aller voir les pyramides en vrai? Est-ce qu'on peut se réapproprier d'autres types de territoires, d'autres types d'expériences? Est-ce qu'on doit le faire en solo, en petit groupe ou en très grand groupe? C'est tout ça qui doit s'interroger. Mais je pense qu'il va de toute façon à la fois s'interroger et en partie se réguler, parce qu'on va avoir des contraintes. Moi, quand j'entends l'aéroport de Venise qui investit 2 milliards d'euros, je me demande toujours comment les gens projettent le prix de l'aérien dans des échelles de temps qui ne sont pas demain et après-demain, mais qui vont forcément apporter une régulation aussi.
Avec un risque, Rémi Knafou, que j'ai rapidement évoqué en introduction, mais qu'on n'a pas vraiment encore développé dans cette émission, qui est celui aussi, quand on critique le surtourisme, de ce mépris de classe aussi. Parce que rappelons qu'en fait, tout le monde ne peut pas prendre ses vacances hors période les plus fréquentées. Tout le monde ne peut pas aller rechercher le lieu qui est peut-être plus privilégié ou plus difficile d'accès. Il y a ça aussi derrière la critique du surtourisme.
Oui, c'est tout à fait évident. C'est d'ailleurs une critique qui est vieille comme le tourisme, hein, parce que déjà, depuis le début du 19e siècle, il y a des écrits de touristes qui disent que les autres touristes sont trop nombreux et que c'était beaucoup mieux avant. Et aujourd'hui, effectivement, pointer des situations prétendues de surtourisme, en particulier sur le littoral, c'est quand même montrer du doigt les vacances du plus grand nombre, enfin de ceux qui ont la chance de prendre des vacances. Comme rappelait Linda, il n'y a que 60% des Français qui prennent des vacances, et ce taux stagne depuis 20 ans. Il faut rappeler que ce sont les capacités d'accueil qui font les flux. Si le littoral est de très loin le premier espace fréquenté par les touristes, c'est parce que sur le littoral français, il y a 1 800 000 lits, et qui sont pour une très grande majorité, je crois que c'est 70%, des lits en habitat léger, en camping. Donc c'est le tourisme des catégories populaires qui est souvent fustigé lorsqu'on met en avant le prétendu surtourisme des régions littorales. Les gens vont là où ils trouvent à se loger, et qui plus est dans des conditions plus ou moins économiques pour le plus grand nombre. C'est ça qui explique la tension sur le littoral qui a été bâtie, aménagée, ce qui pose évidemment par ailleurs de multiples problèmes. Mais cette dénonciation du surtourisme de la part de certains, c'est une manière aussi de permettre de vendre ce que vend souvent le tourisme, c'est-à-dire de la distinction, l'art de se distinguer des autres, l'art de se distinguer du gros de la troupe. Et c'est ainsi que on peut placer des produits dits hors des sentiers battus. Mais il y a plusieurs manières de concevoir les sentiers hors des sentiers battus, parce que hors des sentiers battus, ça peut aller, on peut aller marcher dans le Jura, dans le Massif central, et être hors des sentiers battus.
Mais, sans que ce soit à des coûts démesurés.
Voilà. Aller sur le continent antarctique, c'est hors des sentiers battus aussi, mais c'est réservé à une minorité de la minorité, parce que les marchés émetteurs sont dans l'hémisphère nord, et par définition, le continent antarctique, c'est le pôle sud. Il y a plus de 10 000 km pour y aller. Là, c'est prétexte à prélever évidemment des quantités d'énergie fossile importantes et à émettre des quantités de gaz à effet de serre importantes. Donc le tourisme est un miroir grossissant des inégalités qui structurent le monde.
Nous accueillons Nert qui nous attend au standard. Bonsoir Nert.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, moi je m'interroge depuis longtemps déjà sur le ce qu'on appelle le surtourisme. Le surtourisme, il est valorisé par des croisières de bateaux où il y a 6000 personnes, par des compagnies low cost qui sont qui abattent, je dirais, qui font de l'abattage comme du bétail. Mm-hmm. C'est à la fois les croisières et les croisiéristes et à la fois les compagnies low cost ne paient pas leur personnel. C'est un personnel invisible qui travaille 24 heures sur 24, qui est payé de manière immonde, etc. Mmh. Si des gens ont régulé ça et qu'on donne à ces gens-là des réglementations sur le travail, sur l'énergie, etc., on aurait peut-être un tourisme plus responsable et moins, je dirais, moins...
Moins massif, énorme, peut-être. Quoi. Oui.
Moins
merci.
Massif,
voilà. Merci beaucoup, Nert, pour cette question très intéressante. Linda Lenné, il y a un besoin de régulation de ces acteurs-là du surtourisme, finalement?
Alors, je pense qu'on peut effectivement pointer du doigt certains acteurs, mais parmi les compagnies de croisière et parmi les compagnies low cost, il y a différentes attitudes, il y a différentes façons de travailler. Mm-hmm. Certaines compagnies low cost sont respectueuses de leur personnel et d'autres pas du tout. Et dans le même esprit, certaines compagnies low cost sont respectueuses de leurs clients et d'autres pas du tout. Je ne vais
mais
pas donner de nom.
Bien sûr, mais s'il y avait régulation, en tout cas, ça permettrait peut-être d'harmoniser un peu le tout vers le haut.
Alors, il peut y avoir régulation et puis il peut y avoir aussi des choix de consommateurs. Là, je rejoins ce que disait Jean-Christophe, c'est qu'il y a de la part des professionnels la possibilité de sensibiliser et puis il y a la part du voyageur la possibilité de choisir. J'entends les propos de Nert, je suis sûre que Nert ne prend pas de compagnie low cost, peut-être qu'elle voyage avec sa voiture personnelle, peut-être choisit-elle du covoiturage ou le train. Donc à travers ses choix personnels, elle peut aussi faire ruisseler des petites rivières vertueuses. Et donc au-delà de la régulation qui ne va pas tout changer. Il y a la sensibilisation, les professionnels du voyage, tour opérateurs, voyagistes ont leur part à jouer. Et puis également les consommateurs qui doivent se prendre en main et encore une fois, voyager en pleine conscience et faire les bons choix. Donc si effectivement on considère que ce n'est plus raisonnable de partir en week-end en Europe, en low cost, c'est ce que je pense, et bien à ce moment-là, il faut y renoncer, il faut finalement se dépayser autrement, partir, pourquoi pas, sur les sorties de randonnée dans le Jura, je crois que c'est l'exemple que donnait Rémi, ou bien dans les Pyrénées. Il y a un choix très important en France comme dans les pays limitrophes, et donc à nous aussi de faire les bons choix pour être en harmonie avec la nature, avec la population locale, et avec ses propres valeurs.
Jean-Christophe Guérin, justement, au sujet de ces bons choix, est-ce qu'il n'y a pas aussi une expansion de la promotion? On a notamment parlé des influenceurs qui peuvent avoir participé au surtourisme sur certains sites, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer le fait que, notamment via les réseaux sociaux ou autres, on puisse avoir une promotion de ce tourisme alternatif et justement moins déplorable à la fois pour l'environnement et pour les populations locales?
Oui, vous avez raison. Il y a un vrai sujet de communication, mais qui est, je pense, où toutes les parties sont prenantes. C'est-à-dire qu'à la fois les offices de tourisme, avec l'arrivée du digital, les influenceurs, les voyageurs eux-mêmes, qui quelque part amplifient le phénomène. Une photo Instagram, ça peut être un influenceur important, mais ça peut être aussi l'accumulation de voyageurs qui font que les algorithmes repèrent que sur tel site, tel endroit ou telle position, sur tel site, tel parc national, c'est l'endroit où il faut être parce qu'il y a des milliers de photos qui ont été prises là. Donc ça, c'est très très difficile d'aller contre ça. Mais par contre, je pense que 100% des tours opérateurs, 100% des guides de voyage, qu'ils soient numériques ou qu'ils soient en papier, cherchent à apporter une information différenciante pour sortir ce que j'appellerais un peu de l'océan rouge. Parce que quelque part, la satisfaction d'un client, quand c'est un client d'une de nos agences adhérentes, c'est ce qui prime. Donc, qui dit surtourisme ou surfréquentation dit potentiellement le risque qu'un client revienne en disant c'était pas à faire, d'avoir à peu près le même ressenti que la plupart de nos auditeurs ce soir. Donc il y a une vraie recherche de différenciation. Il y a des propositions, et le Covid a été un peu un accélérateur là-dessus. Il y a des signaux faibles, durables, comme le voyage à vélo qui se développe beaucoup en France, en Europe. Le train, c'est encore compliqué, mais il suffit de regarder l'ensemble des médias autour du voyage en train.
Bien sûr.
La transformation reste encore très compliquée, mais par contre, Il y a beaucoup de likes quand quelqu'un poste sur un grand voyage en Europe pour aller au cercle polaire en hiver, pour rejoindre les pays de l'Est en train, etc. Donc il y a une espèce d'engouement, la transformation n'est pas encore là, c'est des signaux faibles en termes de fréquentation, mais je pense que ça a du sens pour l'avenir.
Merci beaucoup Linda Lenné, vous vouliez ajouter quelque chose rapidement à ce sujet, s'il vous plaît.
Oui, très rapidement, en fait, on a pointé du doigt les réseaux sociaux, notamment Instagram. Instagram, il faut savoir que chaque jour, il y a 24 millions de Français qui vont sur ce réseau social. On ne va pas désinstagrammer le monde, mais par contre, on peut peut-être réinstagrammer avec justement des messages autour du tourisme responsable et du mieux voyager.
Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci Linda Lenné. Je rappelle que vous êtes co-autrice de « Quand le tourisme s'éveillera », c'est paru aux éditions de l'Aube. Rémi Knafou, vous avez écrit « Réinventer vraiment le tourisme, en finir avec les hypocrisies du tourisme durable » aux éditions du Faubourg. Et merci également à Jean-Christophe Guérin, président de l'association Agir pour un tourisme responsable. Tout de suite, la question des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 11 ans et je voudrais savoir pourquoi avons-nous créé des robots artificiels ? Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir Lou, et la réponse, ce sera juste après le flash.